Le journal est présenté par Claire Checaglini.
Bonjour à tous. Couvre-feu à 18h pour 8 départements supplémentaires dès ce soir. Des restrictions à l'efficacité prouvée selon l'immunologiste Pascal Crépet. Le deuxième confinement a fait exploser le nombre de signalements de violences conjugales. Plus 60% entre fin octobre et début décembre, c'est pire qu'au printemps dernier. Aux États-Unis, à Los Angeles, une personne meurt toutes les 8 minutes du Covid. Les hôpitaux sont débordés. En Indonésie, les deux boîtes noires du Boeing qui s'est abîmée en mer hier ont été localisées. Des restes humains ont aussi été retrouvés. Le couvre-feu à 18h entre en vigueur dans 8 départements supplémentaires ce soir. Ce sera le cas notamment dans les Bouches-du-Rhône. Dans ce département, les élus de tous bords s'étaient montrés dès vendredi très virulents contre ce resserrage de vis jugé tout à fait inutile. Alors prise de position politico-politicienne ou avis médicalement recevable, autrement dit, le couvre-feu avancé est-il efficace? Question posée à Pascal Crépet, immunologiste à l'École des hautes études en santé publique de Rennes.
Depuis octobre et les couvre-feux du 17 puis du 24 octobre, on a maintenant, en analysant les courbes d'incidence, la démonstration que sur le territoire hexagonal, les couvre-feux à 21h ont déjà un impact assez important. Ces couvre-feux, tels qu'ils ont été mis en place, ont notamment permis de casser la progression épidémique quelques jours avant que le confinement de début novembre soit mis en place. Donc on sait que c'est un outil efficace pour nous aider à garder le contrôle sur l'épidémie. Et on sait avec l'expérience guyanaise que plus on avance le couvre-feu, plus il gagne en efficacité. Donc l'ensemble de ces éléments nous amène à penser qu'avancer le couvre-feu à 18h peut être une mesure qui va nous aider à faire baisser la pression épidémique dans les départements où celle-ci est très élevée. Et avec le nouveau variant anglais qui commence à circuler sur le territoire, il y a un fort risque de rebond de l'épidémie dans les prochaines semaines. Et donc, autant essayer de garder cette circulation du variant actuel sous contrôle et de faire baisser cette pression. Et effectivement, avancer les couvre-feux peut avoir un effet pour essayer de faire baisser cette pression épidémique.
L'immunologiste Pascal Crépet, interrogé par Thomas Larabie. Et mardi, la Drôme et le Var passeront à leur tour sous couvre-feu dès 18h. Dans le Puy-de-Dôme, cette fois, les commerces n'ouvriront finalement pas ce dimanche. Décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi en référé. La juridiction estime que cette ouverture dominicale risque d'augmenter de fait les jours de contamination par le coronavirus. La préfecture avait pourtant donné son accord. Le but était de permettre aux commerçants d'accueillir des clients le dimanche, donc, pour tenter de rattraper leurs pertes avant les soldes. Au chapitre de la campagne de vaccination, Anne Hidalgo repasse à l'attaque. La maire de Paris fustige la logistique mise en place par le gouvernement. Dans le JDD, elle déclare « Avec de telles carences, le débarquement de juin 44 aurait échoué ». Et hier, ce sont plus de 20 000 nouvelles contaminations qui ont été recensées par Santé publique France. En Allemagne, le cap des 40 000 morts dus au Covid a été franchi. Et aux États-Unis, à Los Angeles, une personne meurt toutes les 8 minutes du coronavirus. L'épidémie a déjà tué plus de 11 500 patients. Les hôpitaux sont débordés. Le reportage de Loïc Piala.
Yolanda montre des galets posés devant l'entrée du West Hills Hospital. Un inconnu les a peints et couverts de messages comme espoir ou amour pour soutenir le personnel médical. En ce moment, Yolanda, infirmière en soins intensifs, voit mourir jusqu'à 4 patients par jour.
Ça laisse des traces. Nous faisons un métier qu'on a choisi, mais on ne veut pas être des martyrs.
Son hôpital au nord-ouest de Los Angeles n'a longtemps soigné que quelques malades atteints du coronavirus. Mais depuis Thanksgiving, il a dû libérer 2 étages pour les accueillir. Actuellement, ils sont 17 sur les 24 patients traités en soins intensifs.
On n'a pas tout de suite compris l'ampleur de l'épidémie. Dans mon service, on ne se demande plus si on va avoir des patients Covid. On n'a plus le choix.
Face à l'afflux de malades, des établissements ont installé des tentes sur les parkings ou transformé leur cafétéria en salle de soins. Certains ont réclamé l'aide de la garde nationale. Beaucoup ont demandé des dérogations pour augmenter le nombre de patients par infirmière, un quota fixé par la loi en Californie. Au Riverside Community Hospital, Janelle s'occupe de 3 patients au lieu de 2.
S'occuper de 2 malades en état critique, ça demande énormément d'attention. On n'arrête pas. Dès 7h du matin, on a besoin d'aide.
Des ambulanciers ont même reçu la consigne de ne plus conduire aux urgences les malades avec une trop faible chance de survie.
Et en Chine, ce sont les contaminations lors du Nouvel An chinois, célébré dans la première quinzaine de février, que les autorités redoutent. En attendant, pour lutter contre le variant britannique du Covid, tous les vols à destination ou en provenance du Royaume-Uni restent suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et parmi les effets secondaires de la pandémie, la hausse des signalements des violences conjugales. La plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui les centralise, a enregistré 60% d'appels supplémentaires lors du deuxième confinement, une augmentation encore plus impressionnante qu'entre la mi-mars et la mi-mai de l'an dernier. Cette fois, 40% de signalements en plus avaient été comptabilisés. Alors pourquoi cette nouvelle hausse dramatique? Les explications de Marlène Frisch, psychologue spécialiste du couple.
Même chez des couples où il n'y avait pas de violence, ce deuxième confinement a pu susciter la violence. Je participe à une permanence pour les auteurs de violences, mais je reçois des coups de fil d'hommes qui disent « c'est la première fois que je frappe ma conjointe ». Dans une famille ou un couple qui est déjà fragile, a priori, qui est déjà soumis à ce genre de violence, de comportement, ça devient trois fois plus insupportable. Ça suscite des sentiments de rage, d'impuissance, de révolte, c'est la torture. L'issue, c'est quand même, si elles peuvent, téléphoner, avoir des contacts avec l'extérieur, sans honte, sans crainte, parce que c'est honteux, hein. Elles ont honte, ces femmes. Il faut à tout prix ouvrir la porte, ouvrir la fenêtre, en parler avec les copines, avec les travailleurs sociaux, ne pas rester seule.
La psychologue Marlène Frisch, interrogée par Océane Théard. En Indonésie, les autorités ont annoncé ce matin que les deux boîtes noires du Boeing 737 qui s'est abîmé en mer hier ont été localisées. Selon Jakarta, ces enregistrements des données techniques et des conversations dans la cabine de pilotage devraient être récupérés rapidement. Le crash a provoqué la mort de 62 personnes. À Jakarta, la correspondance de Gabriel Maréchaux.
Les restes humains repêchés au large de l'île de la Ki n'ont pas encore été identifiés, mais déjà le président indonésien Joko Widodo présente ses condoléances aux familles des 52 adultes et 10 enfants disparus. Un détail qui en dit long sur le scénario funeste qui se dessine de manière quasi certaine alors que des centaines de militaires, sauveteurs et plongeurs fouillent toujours les fonds marins à une vingtaine de kilomètres de Jakarta. Car c'est à cet endroit précis que plusieurs minutes seulement après avoir décollé, le Boeing 737 a perdu en quelques instants plus de 3000 mètres d'altitude. Des pêcheurs assurent alors avoir vu exploser en arrivant dans l'eau. D'autres ont ensuite aperçu une marée noire se former à la surface. Et depuis, des débris de l'appareil ont été identifiés à une vingtaine de mètres de profondeur sous le rivage clair et les deux boîtes noires ont ensuite pu être localisées. Les informations qu'elles pourront apporter sont très attendues, là où il est encore impossible de savoir pourquoi l'avion a dévié sa trajectoire vers le nord-ouest en quelques secondes seulement, avant de plonger en piqué vers les fonds marins. L'appareil circulait depuis 26 ans et avait volé dans le ciel indonésien ces derniers jours sans aucun problème notable. En Indonésie, cette disparition rappelle des souvenirs funestes. En 2018, un autre Boeing 737 avait disparu peu de temps après avoir décollé. Ses 189 occupants avaient ensuite été retrouvés morts dans la mer de Java.
Gabriel Maréchaux. Aux États-Unis, Mike Pence sera présent à la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier, contrairement à Donald Trump. Le vice-président américain est le bienvenu, avait déclaré vendredi le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Par ailleurs, les appels à manifester le jour de l'investiture se multiplie côté trumpiste. Et alors que l'heure de la passation du pouvoir approche, l'administration républicaine joue ses toutes dernières cartes diplomatiques. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a annoncé la levée des restrictions de contact entre responsables américains et leurs homologues taïwanais, mesure qui devrait encore attiser les tensions avec Pékin. Et puis ce dimanche, les États-Unis ont ouvert une représentation au Sahara occidental, territoire toujours disputé entre le Maroc et le Front Polisario. Premier tour de l'élection présidentielle aujourd'hui au Kyrgyzstan. Favori du scrutin, le populiste Sadir Japarov. Il y a encore 3 mois, il purgeait une peine de 10 ans de prison pour enlèvement, mais il a été libéré grâce au mouvement d'octobre dernier. Depuis, Sadir Japarov a pris le contrôle des principaux leviers du pouvoir. Ses opposants redoutent que sa victoire ne débouche sur un pouvoir autoritaire. Midi 30 sur France Culture, l'heure de la face cachée du globe où il est question aujourd'hui de la FINUL, la force intérimaire de l'ONU au Liban et des tensions aussi en Tunisie, 10 ans après la chute de Ben Ali. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Claire. Des centaines de personnes ont manifesté jeudi à Gafsa. Cette région minière du centre de la Tunisie s'estime marginalisée et on est toujours à réclamer les infrastructures et les emplois promis par les 9 gouvernements qui se sont succédés depuis le printemps tunisien de 2011. La correspondance de Maureen Mercier à Tunis.
La grogne n'a jamais cessé depuis la révolution, mais elle prend de l'ampleur, tout simplement parce qu'il y a 10 ans, les indicateurs socio-économiques étaient déjà au rouge. Là, ils sont au rouge vif. La courbe du chômage ne s'est pas inversée. Au contraire, un jeune diplômé sur 3, désormais, ne trouve pas de travail. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Et les Tunisiens sont pris à la gorge, plus encore dans les régions de l'intérieur du pays. Pour rappel, s'ils ont trouvé le courage d'affronter le régime de Ben Ali il y a 10 ans, c'était avant tout pour vivre plus dignement. Depuis plusieurs semaines, les mobilisations se multiplient. La fronde émane surtout des régions riches en ressources naturelles, dont le phosphate, mais qui restent des régions délaissées. La décentralisation, un des enjeux majeurs de la révolution, piétine. La population réclame emploi et investissement. Elle est d'autant plus irritée que la classe politique est juste apte à s'entre-déchirer et non à gérer le pays, résume un jeune chômeur. 9 gouvernements en 10 ans. Aucun n'a réussi à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour relancer l'économie. Le mois de janvier est souvent marqué par les mobilisations sociales, plus encore en cette année-ci symbolique, et les manifestations vont se poursuivre malgré les risques liés à la pandémie qui fait rage ici aussi.
Plus à l'est, et tandis que le Moyen-Orient est traversé par de nombreuses crises, anciennes et nouvelles, la zone de la ligne bleue reste relativement calme, même si quelques incidents ont été signalés en 2020. La ligne bleue, c'est cette frontière technique entre le Liban et Israël, tracée par l'ONU après la guerre de 2006, une zone placée sous l'étroite surveillance de la Force intérimaire des Nations Unies, la FINUL, dont les missions et la composition ont évolué depuis son premier déploiement en 1978, comme l'explique le général de brigade Jean-Pierre Faguet, rencontré par Christian Chéneau au Liban.
La particularité, c'est effectivement que la ligne qui sépare les parties est une ligne qui a de nombreux points qui sont contestés par certaines parties et puis qui peuvent donner lieu à contentieux avec des forces en présence qui sont effectivement au contact l'une de l'autre. Et donc la FINUL, jour après jour, veille à superviser l'ensemble des activités, assurer la liaison et un canal de communication quand une partie veut faire de la déforestation ou entretenir ses infrastructures de sécurité. Nous informons l'autre partie et puis nous surveillons toute la journée pour éviter qu'il y ait un incident et qu'il y ait une escalade, avec un certain succès, parce que quand on regarde depuis 14 ans finalement, quand on regarde la région, on se dit que ce Sud-Liban a été plutôt préservé de la guerre depuis 14 ans.
Quand on regarde 2020, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'incidents? De quel type?
Alors nous avons eu un certain nombre d'incidents de rupture de cessez-le-feu. Nous avons eu quelques tirs d'artillerie avec des obus éclairants pour de nuit s'assurer qu'effectivement il n'y avait pas eu d'ouverture sur les dispositifs de sécurité des différentes parties.
Est-ce qu'il y aura une fin de cette mission? On sait qu'il y a des négociations en ce moment entre les Libanais et les Israéliens sur la frontière terrestre et maritime. Comment vous voyez l'évolution des choses?
La FINUL, sa fonction, c'est de créer un espace pour permettre les conditions d'un dialogue pour un règlement définitif. C'est ce que nous faisons au quotidien. Les choses avancent pas à pas, doucement, mais je vais vous citer un exemple. La ligne bleue, qui est une ligne technique, qui n'est pas aujourd'hui une frontière, le marquage de la ligne bleue est un processus politique qui avance dans cette direction-là. Eh bien, nous avions, depuis juin 2017, il n'y avait plus de progrès dans le marquage de la ligne bleue. Il y a 2 mois, nous avons repris le processus de marquage de la ligne bleue et nous espérons bien continuer. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un accord qui se fasse sur les zones qui sont contestées, qu'on appelle les zones réservées, de façon à ce que les parties se mettent à la table et puissent avancer sur un accord sur ce tracé.
La Belgique, qui a entamé le 5 janvier la campagne de vaccination dans les maisons de retraite, se dit en mesure de commencer à vacciner en juin la population générale, soit tous les volontaires de plus de 18 ans, durement touchés par la deuxième vague de la pandémie, qui a franchi aujourd'hui la barre des 20 000 morts. La Belgique vit dans un confinement partiel depuis novembre. Pour l'heure, aucun assouplissement n'est envisagé avant le 22 janvier. C'est une joie immense. J'ai acheté cette nouvelle voiture et j'ai fait le test Covid pour aller voir mes proches en Arabie Saoudite. Propos d'un jeune Qatari de mère saoudienne à la frontière entre les deux pays. Elle est ouverte depuis hier et elle représente un grand soulagement pour des familles mixtes qui n'ont pas pu se retrouver depuis 3 ans et demi, date du blocus imposé par Riyad, Abu Dhabi et Bahreïn au petit émirat gazier. Ces monarchies du Golfe reprochaient notamment au Qatar ses liens avec l'Iran et la Turquie et l'accusaient de soutenir soutenir les mouvements islamistes. Lors d'un sommet tenu mardi en Arabie Saoudite, elles ont officiellement proclamé la fin de la crise avec levée du blocus diplomatique et économique. À dimanche prochain.
La météo pour cet après-midi, du soleil généreux sur la quasi-totalité du pays. Il pleuvra et neigera cependant des Pyrénées-Orientales à l'Hérault et sur les Bouches-du-Rhône. Même programme pluvieux en Corse. Les températures de 0 à 6 sur la moitié nord et de 1 à 11 sur la moitié sud.